He is the worst candidate. The dumbest of all candidates.
He doesn't know how to debate the facts because he's not that smart. He doesn't know that many facts.
Le ton est donné, c'était Donald Trump qui disait que Biden est le candidat le plus stupide et l'autre, M. Biden, qui disait il connaît pas les faits.
Tu sais, c'est drôle, Patrick, parce que à tous les quatre ans, il y a ce qu'on appelle le jeu des attentes. Essayer de mettre la barre très, très haute pour l'adversaire pour qu'il se plante, arriver au débat. Là, on pense, on semble avoir été déterminé des deux côtés à mettre la barre la plus basse possible. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner ce soir.
OK. Fais-moi un bref historique des débats présidentiels. Ça frappe l'imaginaire. Il y en a à chaque campagne électorale. Ça vient d'où, cette tradition-là?
Ça commence en 1960, en fait. Le fameux débat classique Kennedy-Nixon. Et après ça, on a eu une espèce de pause, d'interlude. Il n'y a pas eu d'autres débats présidentiels télévisés jusqu'à 1976. Et depuis 76, ben là, c'est à tous les quatre ans. On n'y manque pas. Et en fait, depuis 92, depuis l'élection Clinton-Bush, on a trois débats. C'est une série de trois débats présidentiels et un débat vice-présidentiel. Ça, cette tradition-là, on n'y manque pas. Donc, depuis, écoute, à peu près un quart de siècle, c'est le cas aussi cette année. Donc, on a un premier débat ce soir. On en a un qui est vice-présidentiel entre Mike Pence et Kamala Harris, qui est prévu début octobre. Et à la mi-octobre, on a deux autres débats qui sont prévus entre Trump et Biden. Et historiquement, ça a été surtout dans le cas des premiers débats, là, lorsqu'il y en a eu plus qu'un. C'est le premier qui a retenu le plus d'attention, qui est allé chercher le plus de téléspectateurs. Et quand ça a eu une incidence sur les intentions de vote, ça a tendu, je te dirais, à être celui qui a été le plus influent également à ce niveau-là. Là.
Et ça a toujours eu le même format?
Ça a toujours eu le même format dans la mesure où à peu près le même format. On parle de débats de 1h30 où l'auditoire n'est pas censé participer. Et là, ça va être intéressant ce soir. Je sais qu'on va s'en parler davantage dans 18h là, du débat de ce soir, mais à quel point, surtout avec Donald Trump sur scène, les spectateurs, parce qu'il va y en avoir, il est censé y en avoir même à l'ère COVID-19, là, à quel point est-ce qu'ils vont réagir ou non? Parce que en 2016, dans les débats Trump-Clinton, où l'auditoire était censé rester silencieux, il y avait eu plusieurs moments où on avait carrément senti des rugissements dans la foule, soit pour Trump, soit contre Trump. Comme quoi, déjà il y a quatre ans, clairement, il laissait personne indifférent. Ça risque d'être la même chose, peut-être ce soir aussi.
On va se reparler à 18h avec Valérie Beaudoin. Là, on va décortiquer les enjeux. Mais écoute, est-ce qu'un débat présidentiel, ça a un effet sur les intentions de vote?
Ça peut. Il y a des années où, honnêtement, de part et d'autre, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Par exemple, l'élection de 2008, la campagne de 2008 entre Barack Obama et John McCain. La première élection qu'Obama avait gagnée, là, où, écoute, c'était écrit dans le ciel, Obama avait une assez bonne avance en arrivant dans les débats. Les débats n'ont pas vraiment changé quoi que ce soit, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Par contre, quatre ans plus tard, et ça c'est remarquable parce que ça semble avoir été largement oublié, mais Obama est arrivé au premier débat contre son adversaire, son autre adversaire, Mitt Romney, son nouvel adversaire, là, ça c'est lorsqu'il était président sortant, et il s'était complètement cassé le nez à un point tel, Pat, où Obama avait senti le besoin de s'excuser personnellement à son personnel politique après sa contre-performance en leur disant essentiellement « Je m'excuse, je sais que je vous ai un petit peu abandonné lors de ce débat-là. » Et il avait perdu toute l'avance qu'il avait face à Romney, et on avait eu une course là, au coude à coude jusqu'à la toute fin de la course. Au final, je pense qu'on l'a oublié parce qu'Obama a quand même réussi à gagner. Mais ça revient pas à dire que les débats n'ont jamais d'importance. Ils peuvent en avoir, c'est juste que c'est rare qu'ils sont décisifs. Donc, 2012, je te dirais que c'est probablement le dernier cas d'un débat qui a vraiment eu une grosse influence sur les intentions de vote. Mais même là, cette influence-là n'a pas été assez importante pour déterminer le gagnant de l'élection.
OK, ce soir, qui a le plus à perdre?
Ben, je dirais qu'il y a deux façons de répondre à ça. C'est-à-dire que Trump a plus à perdre dans la mesure où la pression est sur ses épaules. Et là, il commence à manquer de temps. Ça fait plusieurs semaines que je te le dis. Et plus le temps avance, plus c'est vrai. Là, on est à 5 semaines exactement du vote. Et en fait, c'est moins que ça quand tu penses à tout ce qu'on va avoir comme vote par anticipation. Donc là, écoute, ils se réunissent ce soir pour la première fois. Il y a déjà des millions d'Américains qui ont déjà voté. Donc, peu importe ce qui se passe ce soir, ça n'aura pas d'influence sur leur vote. Parce que leur vote, évidemment, est déjà fait. Et plus on va avancer dans le temps, ça va être ça. Dans le cas de Joe Biden, on s'en reparle tantôt. Oui, il y a de la pression. L'important pour lui, c'est tout simplement d'être compétent, protéger son avance.
Parfait. Ben, Raphaël, on te donne une toute petite pause, mais tu es forcé de faire du temps supplémentaire parce que tu vas revenir nous parler de ce débat important, le premier débat présidentiel Trump-Biden là, à 18h05 avec Valérie Beaudoin.
À tantôt.
Parfait. Merci. 17h47, petite pause. Mario Langlois s'en vient.